Bonjour Jean Touris.
Bonjour Jérôme.
Alors vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle Les démons de William Friedkin, qui est paru chez Marest Éditeur. Comme son titre l'indique, hein, l'ouvrage se consacre à William Friedkin. Et tout d'abord, bon, aussi bien dans l'introduction que dans la fin, dans la conclusion de l'ouvrage, j'ai l'impression que vous avez un attachement très personnel à William Friedkin, parce que vous racontez au départ comment... vous avez en gros rencontré Friedkin à l'époque des vidéoclubs, son cinéma, hein. Et puis à la fin, comment vous avez appris son décès, et on vous sent très touché, comme si ce livre allait presque nous conter l'histoire d'un compagnonnage, d'une amitié, quoi.
Oui, oui, d'une obsession même, je dirais. Oui, oui, c'était rendre hommage, mais c'était une nécessité pour moi quand on est habité des années depuis l'enfance par l'œuvre d'un cinéaste. L'idée à un moment donné, c'est de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui nous fascine, même des choses assez morbides chez Friedkin, qu'est-ce qui éveille chez nous cette attirance, ce besoin sans cesse de revoir continuellement ses films. Voilà, à un moment donné, l'obsession, il faut en faire quelque chose, sinon, pour mieux comprendre ce qui, en tout cas moi, ce qui me relie toujours à l'œuvre de Friedkin. Donc, l'idée partait de là, en fait.
D'accord.
Une nécessité.
D'accord, oui, il y avait un besoin d'écrire sur Friedkin.
Ouais, ouais, ouais. Oui, bah, à la base, oui, c'est la découverte de l'exorcisme en vidéo. À l'époque, Friedkin, je sais plus, c'était un peu avant Police Fédérale de Los Angeles, je crois. Ouais, donc j'étais très jeune et comme tous les enfants nés à la fin des années 70, en fait, le cinéma de genre, c'était la porte d'entrée idéale, en fait. C'était via le vidéoclub, évidemment, les films, il y avait à la fois les films de Viançal, évidemment. Et la découverte, voilà, à un moment donné, ça serait peut-être beaucoup plus difficile aujourd'hui pour des jeunes générations qui rentreraient au cinéma par la porte du film de genre. Mais à l'époque, il y avait finalement pas trop de classiques absolus, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on tombait inévitablement sur les grands noms, Carpenter, Argento, Cronenberg, etc., Hooper, Craven, et dont Friedkin, qui n'avait pourtant fait qu'un seul film de genre, d'horreur, L'Exorciste, mais qui, c'était le film à voir de toute urgence, le film le plus effrayant de toute l'histoire du cinéma, entendait-on dire, voilà. Donc c'était, avant même de voir le film, de le découvrir, c'était déjà un objet de fascination. Donc tout part de là, de cette découverte de L'Exorciste, et ensuite l'attraction pour une œuvre qui varie les genres, en fait. Il a fait de la comédie, il a fait des polars, un film de basket, bon. Donc c'est quand même assez hétéroclite, ça se cantonne pas à un cinéma de genre. Mais il y a aussi, voilà, du coup, cette découverte, pour moi, à l'époque, enfin, je le formule pas comme ça à l'époque, j'étais bien trop jeune, mais qu'est-ce qu'un auteur, en fait?
Et d'ailleurs, Les démons de William Friedkin, votre ouvrage, là, enfin, moi étant passionné de Friedkin, un peu comme vous, hein, je pense que tous les deux, on est un peu obsédés par son cinéma. On n'est pas qu'à deux, d'ailleurs, il y a du monde. Il y a une volonté, hein, de balayer toute la filmographie de Friedkin. Vous en parliez à l'instant, hein, le film de basket, Blue Chips, par exemple, pour lequel moi j'ai une tendresse particulière, je le trouve intéressant, et même des téléfilms les moins connus comme Cat, la suite, enfin voilà, jusqu'au documentaire, les casse-cou, tout ça, enfin il y a presque en fait une sorte de filmographie parallèle Friedkin. Il y a les films qui l'ont, il y a les grands films, L'Exorciste, Police Fédérale Los Angeles, French Connection, enfin il y a les grands films, et puis il y a tous ces films qui viennent à côté, en fin de compte, qui sont pas si connus que ça. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette sorte de, un peu cette filmographie parallèle de Friedkin?
Elle est assez bizarre, je dirais. Fascinante et bizarre. Bon, par exemple, qu'est-ce qui pousse William Friedkin à un moment donné à mettre en scène le coup du siècle, Deal of the Century, avec Chevy Chase, par exemple, qui n'est pas du tout un film écrit par Paul Brickman, qui avait fait Risky Business avec Tom Cruise. Ça n'a rien à voir avec Friedkin, par exemple. C'est un film que j'apprécie, certes, mais plutôt pour un cinéaste comme, je dirais, John Landis, quoi. Et pourtant, Friedkin s'intéresse à, peut-être pour le côté virulent, le côté humour noir et méchant, sans doute. Mais bon, Chevy Chase, Friedkin, effectivement, par exemple, c'est étrange. De même, on peut le retrouver effectivement en train de tourner un film de basket écrit par Ron Shelton. A priori, l'association Friedkin et Shelton, ça paraît incongru comme ça. Donc, il y a un côté insaisissable aussi dans ses téléfilms, également dans les épisodes qu'il a réalisés pour la The New Twilight Zone, la cinquième dimension et les contes de la crypte également. Donc oui, ça crée aussi la mythologie quelque part, quoi. Il y a les films que tout le monde connaît, les films que personne ne connaissait à l'époque mais que tout le monde connaît maintenant, et ces obscurs objets qui une autre facette de Friedkin, paradoxalement pas la plus sombre, parce que c'est dans ces films à côté qu'il se laisse aller à l'humour, par exemple, même si c'est pas vraiment un cinéaste de l'humour, hein, Friedkin. Voilà, donc c'est tout aussi intéressant et ça éclaire encore plus, je trouve, des chefs-d'œuvre comme Sorcerer ou Police Fédérale. Tout est lié quelque part et tout reste mystérieux parce que, encore une fois, certaines de ces décisions, parfois des décisions commerciales, je pense aussi, donnent encore plus d'ambiguïté à ce cinéma qui, déjà à la base, va très loin dans l'ambiguïté. Donc moi, je trouve ce côté, cette filmographie arrière sont aussi intéressante finalement, dans ses intentions en tout cas, que, en tout cas pour moi, les chefs-d'œuvre absolus de Friedkin, quoi. Les chefs-d'œuvre reconnus, on va dire. Ou en tout cas reconnus aujourd'hui, même si à l'époque pas trop, mais bon.
Sorcerer, tout ça, c'est venu bien après. On l'oublie maintenant, mais il ne faut pas oublier que c'est des films qui n'ont pas fonctionné aussi bien auprès de la critique que du public à l'époque. Voilà.
Même Police Fédérale, Los Angeles, il était passé en France, un peu, à part pour les journalistes de Starfix. Les autres revues à l'époque, personne n'en parlait. Friedkin, à part Boukrieff, Gans et compagnie de Starfix, tout le monde s'en foutait un peu. Alors en France, en tout cas, à l'époque, ce qui était épouvantable quand on découvrait Police Fédérale Los Angeles, qui bousillait tout ce qu'on avait vu auparavant dans le genre polar d'action, que ce film, aujourd'hui, il est totalement reconnu, hein, heureusement. Mais à l'époque, oui, les Sorcerers, n'en parlons même pas. En plus, après, Friedkin a commencé, au début des années 90, à tourner des scénarios un peu plus mineurs. Donc, déjà que la critique française était mitigée, elle le considérait surtout comme un cinéma commercial, comme un cinéaste commercial, en fait. Hein. Donc, à partir du moment où, en plus, au début des années 90, il a tourné des scénarios un peu mineurs, la critique a été encore plus virulente, quoi. Il a fallu des années, je trouve, beaucoup trop d'années, même, pour que Friedkin soit, en France, en tout cas, considéré comme ce qu'il est depuis toujours un maître.
Je fais coïncider cette reconnaissance tardive en France avec ce qui était assez drôle pour quand on était des fans de Friedkin, cette déflagration qui a été Bug quand c'est sorti, parce que je me rappelle qu'il y a eu un regain d'intérêt de la critique pour Friedkin à l'époque, parce qu'on n'attendait plus rien de Friedkin en fait, en vérité. Hein. Enfin, en tout cas, la critique n'en attendait rien, et quand ils ont vu Bug, qui est quand même un film extraordinaire, hein, et qui contient effectivement nombre des obsessions de Friedkin, à ce moment-là, la critique a un peu changé de regard sur Friedkin et s'est mis à rétro-pédaler.
Ouais, je suis absolument d'accord. Ça m'avait marqué, moi aussi, à l'époque. J'étais content, mais je me disais, bon, mieux vaut tard que jamais, mais bon. Ça, c'était aussi, je pense, lié à la présentation de Bug à la caserne des réalisateurs à Cannes. C'est la première fois que Friedkin était à Cannes, pas en compétition officielle donc, mais quand même. Et c'est le festival qui l'ont vu à l'époque, qui l'ont tous adoré. Et voilà, et tout d'un coup, Friedkin. Il y avait aussi, je pense, aussi le fait qu'une des gens de notre âge, je pense, qui étaient devenus critiques de cinéma à l'époque, et qui avaient grandi comme nous avec Friedkin, et donc en parler pour eux comme un maître, c'était naturel. C'est peut-être une nouvelle génération. Je me rappelle que les cahiers du cinéma traqués auparavant avaient été acclamés, par exemple. Bug aussi, mais traqué déjà, il y avait l'idée, un grand maître, et de retour quelque part aussi. C'est ce qu'on lisait un petit peu déjà avec Traqué, mais effectivement, c'est avec Bug voilà, ouais, tout d'un coup, comme tous les autres cinéastes de ce que Peter Diskin appelle le nouvel Hollywood, ça y est, c'était tout le monde était sacralisé maintenant. A raison, mais bon.
À la différence d'autres cinéastes, par contre, Friedkin, lui, quand il est redécouvert, il en a encore sous la semelle, parce qu'il y a d'autres cinéastes que j'adore, et qui, effectivement, je pense qu'on est de la même génération, avec lesquels on a grandi et qu'on défendra toujours dans nos écrits, dans nos émissions, mais qui sont aujourd'hui moins bons. Friedkin, lui, alors j'ai pas vu son dernier film, là, hein, le tout dernier qui va sortir, le film posthume, mais Friedkin continue de faire des grands films. Killer Joe, c'est monstrueux. Vous l'avez dit, Traqué. Enfin, il va continuer de faire des grands films encore, lui.
Ouais. Ouais. Et encore plus... Encore plus méchant même qu'auparavant, je trouve. Encore plus extrême. Avec moins de personnages, dans des lieux encore plus renfermés, d'ailleurs, paradoxalement, avec des budgets plus petits, mais avec une rage. Parfois, il y a un humour cette fois-ci, enfin, un humour noir qu'il avait esquissé un peu auparavant, et surtout qu'elle trouve, à mon sens, en tout cas, vraiment avec Killer Joe. Où là, on voit que Friedkin est assez. Tout d'un coup, t'es à l'aise avec un humour méchant, un humour rentre-dedans, oui. Donc, il retrouve par rapport également à cet humour noir, cette méchanceté, un côté insolent, le côté garnement, qu'on avait toujours adoré d'ailleurs, je pense, chez Friedkin, le côté je détruis les gens, ou je fais ce que je veux, bon. Donc, oui, il y a une jeunesse retrouvée, je dirais, ouais. Ouais, absolument.
Et dans le premier chapitre de votre ouvrage, Jean Touriste, donc l'ouvrage s'appelle Les démons de William Friedkin, il est disponible chez Marest Éditeur. Vous débutez en rappelant en fait cet homicide involontaire de Popeye Doyle dans French Connection. Et pour moi, en fait, c'est ce qui est primordial, c'est ce qui fait que ce film est singulier par rapport à d'autres. En fait, quand on voit French Connection, jusqu'à cet homicide involontaire et surtout l'absence de réaction de Popeye Doyle qui est obnubilé par son enquête, là on se dit clairement qu'on est face à un film qui ne ressemble pas du tout aux autres films policiers. Et pourtant, à l'époque, le cinéma policier américain, enfin les années 70, a produit de grandes choses, mais là on est dans autre chose.
Oui, absolument, oui. Que l'on retrouve également plus tard dans Police Fédérale, c'est-à-dire dans les deux films, c'est des personnages de flics qui n'ont aucune morale, qui sont ou bien obsédés par leur traque, et pas, quitte à passer au-dessus de la loi, quitte à mal agir, mal se comporter, ce qui était, ouais, absolument nouveau à l'époque. Il y avait des personnages ambigus auparavant, des personnages de flics avant French Connection ambigus, je trouve. Mais cette fois-ci, c'est plus qu'un personnage ambigu, Popeye Doyle. C'est limite quelqu'un d'antipathique, je trouve, qui peut tout faire sauter à n'importe quel moment, parce que son tempérament est explosif. Hein. Comme pour Richard Chance dans Police Fédérale, je trouve, les deux personnages, on dirait que ce sont des psychopathes qui profitent de l'enseigne de flic, du badge de flic. Un sourire, des pulsions, des pulsions de mort, d'ailleurs, souvent, je trouve aussi. Donc ça casse déjà le côté genre policier, quoi. Des personnages qui ne sont pas des flics héros, et qui, à la limite, les soi-disant bad guys sont plus... sympathique, même quelque part, je dirais, que les personnages de flics. Je pense à Willem Dafoe dans Police Fédérale, qui a des motivations peut-être plus saines, plus dignes que Richard Chance, qui supposait pourtant être le flic. Donc French Connection, et plus tard Police Fédérale Los Angeles pour les années 80, celui-ci, oui, redéfinissent, à mon sens, hein, totalement le genre du polar américain. Ce que l'on voyait en tout cas à l'époque, aujourd'hui l'ambiguïté, etc., c'est accepté, mais à l'époque quand même, il fallait oser, quoi.
Et en plus, alors, bon, en Richard Chance, peut-être pas, mais Popeye Doyle, pour moi, enfin, puisque j'ai eu le plaisir dans ma vie au moins une fois d'échanger avec Friedkin, Popeye Doyle me rappelle aussi un peu Friedkin, c'est un peu son alter ego. Friedkin était quand même, à l'époque où il fait French Connection, on le sait après, à l'époque, il le dit maintenant d'ailleurs, hein, qu'aujourd'hui je ne referais pas la même chose, à l'époque où il fait Sorcerer aussi, c'est un dingue. Enfin, pour aller au bout de son film, il est capable de tout et n'importe quoi, y compris parfois mettre la vie de ses collaborateurs en danger.
Ouais. Moi, j'ai toujours été sensible à ces cinéastes kamikazes, quoi. Ces cinéastes, enfin kamikazes, qui, pour la beauté de l'art, sont prêts à mettre leur vie en danger. Des vies en danger, que ça soit Friedkin ou Herzog ou évidemment le Coppola d'Apocalypse Now. C'est ahurissant pour la beauté de l'art en plus pour un film. C'est quelque chose de fort, je trouve. Et dans le cas de Sorcerer, oui, c'est ce qu'on... Enfin, moi, maintenant, quand je revois Sorcerer de Friedkin, je vois ça, je vois ce côté fou, ce côté impensable, encore aujourd'hui. Et la réussite de l'ensemble, parce que finalement, c'est justifié, évidemment. Mais c'est... Oui, rien que la scène du pont, bon... Rien d'y penser aujourd'hui. Comment un cinéaste a-t-il pu tourner ça, quoi? Comment a-t-il pu imaginer le vouloir déjà?
Je crois que il avait le film en tête et peu importe, après il fallait le faire. Je pense que c'est un jusqu'au boutiste incroyable en fait. Même si après il s'est calmé, même ses derniers films, même des films quand même comme Bug, Killer Joe, font preuve aussi d'un jusqu'au boutisme d'un type qui a foi en son cinéma quand même.
Jusqu'au bout, ouais, jusqu'au bout. Il n'y a jamais de concession, je pense.
Et comme Carpenter, moi je trouve que Friedkin, c'est un grand cinéaste du mal. C'est aussi celui, hein, vous le rappelez dans votre ouvrage Les démons de William Friedkin, de la contamination. Et là je pense, même la contamination du mal. Donc, hein, et là je pense à la relation dont on a un peu parlé dans la police fédérale Los Angeles, mais Richard Shenz et John Vukovic. La relation, elle est très singulière. Moi je me rappelle la première fois que j'ai vu le film. J'ai été comme tout le monde, à un quart d'heure de la fin, complètement sidéré par ce qui se passait à l'écran. Et ce qui est encore plus sidérant, c'est la manière dont le personnage disparu va contaminer le personnage qui reste. C'est démentiel comme idée, en fait.
Moi, ça m'avait scotché à l'époque. Enfin, c'était déjà que le personnage principal se fasse flinguer 10 minutes avant ou 15 minutes avant la fin du film. Déjà, c'était du jamais vu. Et en plus, ce qui m'a vraiment, vraiment marqué, enfin, comme toutes les personnes, je pense, voilà, qui ont vu Police Fédérale, c'est effectivement que le personnage soi-disant, enfin, sain d'esprit, moral, qui culpabilise, qui, bon, finit par se faire effectivement totalement bouffer par... ou bien par son ancien collègue décédé, ou bien par Rick Masters, l'un des deux, voilà, comme s'ils sont mal, il a attrapé le mal des autres, et quoi qu'il arrive, on peut pas y échapper, et même l'être soi-disant pur, qui respectait de ses collègues, qui, John Vukovic, donc, qui vient d'une lignée de flics, en fait, avec des principes, etc., que même ce genre d'individu puisse, quoi qu'il arrive, inévitablement, se faire contaminer, bouffer par des pulsions que lui aussi avait, ou via une attirance non dite, etc. Le film est très très ambigu, évidemment, sur ce point-là. Mais d'un point de vue scénaristique, c'est ahurissant, je trouve. C'est une fin, un final, qui aujourd'hui encore, qui est l'un de mes préférés, je pense, dans ce que j'avais vu à l'époque, c'est sûr.
Et dans votre ouvrage, Les démons de William Friedkin, donc Jean Touris, qui est disponible aux éditions Marest Éditeur, vous écrivez des mots très forts, hein, corruption et folie consentie.
Oui. Que ça soit pour Cruising ou John Vukovic dans Police Fédérale, c'est comme s'ils avaient quelque chose, une folie en eux, déjà, à la base. C'est la tentation, le mal est attirant de toute façon, c'est très attirant, et quand il y a ce mal, enfin, cette obsession, c'est une folie latente quelque part, pour des raisons que l'on ne connaît d'ailleurs pas, que ce soit dans holding ou même police fédérale. C'est tentant, c'est de se laisser agripper par le malin, par des. Voilà. Et laisser surgir des choses qui sont en nous, qui sont dans les personnages, au cœur des personnages de Friedkin, mais en chacun de nous tous, quoi. Et je pense principalement aux fans de Friedkin. Qui, bon. Donc, oui, cette idée d'attirance et d'une présence qu'on appelle le mal, mais qui est très, 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 très évanescente. C'est un thème fascinant, je trouve, à la fois, chez Friedkin particulièrement, d'ailleurs. L'envie de se laisser corrompre, c'est plus que de la tentation, c'est un plaisir, quelque part, une renaissance dans le mal. C'est une renaissance aussi pour John Wickowicz, et on imagine également pour le personnage que joue Al Pacino dans Cruising. Se redécouvrir à soi-même et, oui, assumer l'horreur, et devenir aussi sadique que d'autres que d'autres personnages vus auparavant dans ces films, quoi. Le tueur de Cruising ou Richard Chance dans Body Spiral, par exemple. Voilà. Il y a dans Bug, Agnès, le personnage d'Agnès est assez identique aussi, je trouve. On a l'impression que cette folie était là en elle, que c'est dès que l'occasion se présente, de laisser fuser cette folie, c'est un refuge, ça fait du bien pour elle, je trouve. La folie est une petite île qui la protège de son enfant disparu, de sa solitude, de toutes ces choses. Le recours à la folie pour tenir encore un peu, oui, pour ne pas se suicider, je pense, pour faire d'un personnage de Friedkin, quoi. Voilà. En gros.
Bon, puis au sujet de. Je change un petit peu de sujet, mais. On reste sur Police fédérale Los Angeles. Quand vous évoquez Police fédérale Los Angeles, vous soulignez aussi quelque chose dans votre ouvrage qui est important. C'est les choix étonnants aussi en matière de bande originale de film que fait Friedkin. C'est Wong Chun, là, il prend un groupe pop, voilà, mais comme il avait renié une musique plus classique pour prendre Michael Field sur l'Exorciste, enfin, juste un titre, mais et il est étonnant, Friedkin, quand même, dans ses... Dans les illustrations musicales de ses films, dans ses choix.
Ah, ces vidéos sont formidables, je trouve, mais vraiment formidables. Vraiment. C'est le premier à demander à Tangerine Dream de faire une musique de film, par exemple, pour Sorcerer. Ensuite, le groupe va travailler pour Michael Mann, va partir à Hollywood, etc. Dans Police fédérale, Wong Chung, effectivement, ça paraît incongru, et pourtant ça fonctionne à mort, ça crée un contraste, en plus, je trouve, avec les images, un côté faussement pop, faussement années 80, un peu un clip, vraiment, mais on sent que Friedkin, tout comme, d'ailleurs, quasi au même moment, Brian De Palma pour Body Double, sont tous les deux passés par la case vidéo avant de tourner Police fédérale et Body Double, c'est-à-dire Laura Branigan pour Friedkin. Et De Palma pour Bruce Springsteen. Et ils incorporent quelque chose du vidéoclip, de l'esthétique clip à leur façon, évidemment, et pour en montrer, dans les deux cas, un simulacre, quelque chose de faux. Et dans le cas de Friedkin, c'est évidemment montrer derrière cette musique pop, la belle photographie de Rob Miller, un faux semblant, un miroir. Donc une pourriture de toute façon, quoi. C'est quelque chose, ouais, qui m'avait vraiment fasciné, qui me fascine toujours d'ailleurs. Ce côté, on est dans les années 80, mais en même temps, on n'est pas chez Russell Mulcahy, Razorback ou ce genre de choses. C'est pas l'idée de rendre compte d'une esthétique ou s'approprier une esthétique pour en faire quelque chose de flash. Adrian Lyne, etc. Peu importe. Mais au contraire, pour bousiller cette esthétique et montrer quelque chose de beaucoup plus, quelque chose qui est là, personnage, d'un mécanisme. Ouais, voilà, quelque chose qui attend derrière ces images et qui est prêt à surgir et à gripper le spectateur par surprise, la mort du héros. Voilà, ce genre de choses, ouais, qui trempe l'œil, en fait. Hein. En police fédérale, tout est faux, de toute façon, dans chaque plan, dans le film, chaque plan est quelque part truqué, donc il y a le fond et la forme en même temps, et ce recours à cette esthétique active et à la musique de Wang Chung donne encore plus d'ambiguïté au film, de profondeur, d'ambiguïté et de dynamisme aussi, parce que la BO est incroyable. J'adore la BO de police fédérale, bah, vraiment.
Mais j'aime beaucoup aussi. Alors, vous abordez dans votre livre, hein, Les démons de William Friedkin, donc Jean Touris, là, qui est paru chez Marest Éditeur. Vous abordez aussi un film, d'ailleurs une très bonne BO de Morricone, si ma mémoire est bonne. C'est Rampage, Le sang du châtiment, qui est longtemps resté un film, moi je l'aime beaucoup en fait, hein, et qui est longtemps resté un film assez méconnu. Tout du moins, bon, moi j'ai encore la VHS d'époque, mais c'est vrai que le film n'est jamais ressorti sur support physique, DVD, Blu-ray, je crois, ou peut-être très récemment il est réapparu sur des plateformes de streaming, mais il avait complètement disparu. Ce film, en plus si particulier, dont les montages ont varié en fonction de la position de Friedkin sur la peine de mort, et qui je trouve est un très grand Friedkin, Rampage, Le sang du châtiment. Les deux versions d'ailleurs, les deux montages, ça n'altère en rien la qualité du film. Vous dites même dans votre livre qu'il est, il serait revenu, ça je le découvre en lisant votre livre, qu'il serait revenu quand même à la fin sur sa décision. Il a été anti-peine de mort, après pro-peine de mort, et puis à la fin il aurait changé d'avis encore une fois. C'est ce que j'ai cru comprendre en lisant votre livre. Quoi qu'il en soit, il en reste un film qui mériterait quand même de comment dire, une vraie ressortie dans de bonnes conditions, quoi.
Ah ouais, moi je... Il faut, c'est urgent. C'est même incroyable que ce film... Il ne bénéficie aujourd'hui, ne serait-ce que d'un petit coffret remasterisé. Ben, voilà, moi j'ai des copies du film, je l'avais en VHS, comme ça, et j'ai des copies du film et trouvées effectivement sur des sites, quoi. Et difficilement d'ailleurs, en plus. Difficilement. Et c'est un film que beaucoup de personnes aimeraient voir et n'ont jamais eu l'occasion de voir, en fait. En plus, le film est passé inaperçu, évidemment. Il n'est même pas sorti aux États-Unis sur le coup. En France, on ne peut pas dire que la critique se soit enthousiasmée. Bon, c'est vraiment dommage parce que c'est un des plus grands Friedkin, je trouve, et c'est surtout un des films les plus durs, quand même, je trouve, de toute la filmographie du cinéaste, mais également de la décennie, quoi. Enfin, un des films les plus malsains, les plus durs à regarder. Il faut vraiment. Quand on décide de revoir un match, Le sang du châtiment, on se lève pas le matin en se disant tiens, je vais revoir ce film aujourd'hui. Il faut quand même avoir le cœur bien accroché, quoi. C'est sans pitié, sans concession. C'est vraiment le mal dans ce qu'il a de plus parfois inacceptable, c'est-à-dire le meurtre d'enfants, par exemple.
Les enfants qui souffrent pas mal d'ailleurs dans les films de Friedkin, qui souvent expient les péchés des adultes. Et d'ailleurs, le Rampage, Le sang du châtiment, moi, c'est un film qui m'avait habité, poursuivi après la fin de la première fois où je l'ai regardé, parce qu'à la fin, dans le montage original, il y a un dialogue entre le père et le fils à la fête foraine. Ça se termine comme ça. Et moi, je me souviens que j'étais resté complètement sidéré, en fait, devant l'écran.
Je me rappelle de cette fin qui est difficile à interpréter d'ailleurs avec le recul, mais on sent pas trop l'espoir quand même.
Ah, c'est bon, c'est un grand film. On a le jeté une bouteille à la mer. Je pense que c'est compliqué d'avoir une copie de qualité. C'est ce qui fait sans doute la difficulté pour le sortir, mais c'est vraiment un grand film. Voilà. Et d'ailleurs. On en parlait à l'instant, là. Bon, bah, c'est un film sur un tueur en série, Rampage, le sang du châtiment. Ça nous fait un petit rappel, c'est que la mort, elle est au centre de la filmographie de Friedkin. Et hormis l'enfer du devoir, où il y a qui est un peu à part dans sa filmographie, mais sinon, la mort chez Friedkin, il n'y a pas de martyrologie, et puis surtout, comme c'est souligné dans l'ouvrage, ce qui fait la différence de Friedkin avec d'autres cinéastes, on le voit même dans ce qu'il fait pour la télé, par exemple l'épisode de la cinquième dimension, la Nightcrawlers, c'est une mort sans rédemption, il n'y a pas de rédemption possible chez Friedkin.
Ah ouais, ouais, absolument, je suis absolument d'accord. Non, il n'y a pas de rédemption, jamais, jamais. Même dans Nightcrawler, le personnage ne veut même pas expier sa culpabilité, quoi, d'avoir trahi ses coéquipiers au Vietnam. Ça va pas le sauver. Il vient le chercher. C'est une mort violente, comme souvent chez Friedkin. Mais effectivement, on n'est pas dans Taxi Driver, on n'est pas. Non, c'est. Chez Schrader, chez Friedkin, ouais, c'est jusqu'au bout, la mort, c'est la mort, et il faut vivre avec ses fautes, avec ses péchés, c'est ainsi, c'est comme ça, jusqu'à la fin, et peut-être même au-delà, c'est dire, tellement Friedkin était optimiste.
Ouais, c'est vrai. Il était assez rigolard quand on le rencontrait, mais je pense que c'était pas un grand optimiste en vérité. Ça, c'est d'ailleurs au final, après écriture de ce livre, où vous en êtes-vous de votre relation avec l'œuvre du cinéaste, moi que je qualifie du plus passionnément ambigu de sa génération, hein, parce que vous avez rappelé à l'instant Schrader, tout ça, qui était bon. Voilà, il y a quand même toujours la rédemption. Tout ça. Là, lui. C'est le cinéaste vraiment de l'ambiguïté par excellence. Ça rigole pas, quoi, en fait. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que dans la comédie pure, il s'est pas trouvé. Où en êtes-vous, donc, de votre relation avec ce cinéaste?
Je l'aimerai jusqu'à la fin de mes jours et au-delà. Même mort, j'aimerais toujours son œuvre, quoi qu'il arrive. J'ai toujours vécu quasiment avec son œuvre. L'exorciste, si je le revois pas plusieurs fois par an, au moins tous les mois, je revois une scène, par exemple, pour le plaisir. Pour le plaisir, pareil pour Sorcerer, Cruising, Police Fédérale. Ça reste une drogue, toujours, pour moi. Il n'y a pas de Friedkin, évidemment. Mais je pourrais jamais me lasser de ce film. Je pense. Même après les avoir vus 50, 60 fois, je ne sais pas, leur trouver un défaut. En tout cas, pour les bonnes parties, en tout cas, de la filmographie de Friedkin, quoi. Même si je trouve qu'il n'y a rien de vraiment mauvais non plus, jamais. Donc, non, je reste toujours attaché à ce cinéaste. C'est pour la vie et au-delà, quoi, j'ai l'impression. J'en suis même certain. Dans une vie de spectateur, on peut aimer énormément de cinéastes, mais c'est encore plus beau quand un auteur, un cinéaste nous parle plus que d'autres. Donc nous parle en quoi, pourquoi. Il faut des années et des années avant d'esquisser peut-être une réponse, mais je trouve ça, le pouvoir du cinéma est beau de ce point de vue-là. Être happé, touché par une vision au point de ne plus pouvoir s'enlacer ad vitam aeternam, quoi. Il y a des cinéastes comme ça qu'on découvre jeune, en fait, et qu'on redécouvre année après année, et qui, arrivés à l'adolescence ou un peu plus tard, deviennent primordiales, décisifs, et une fois adultes, c'est pire, notre rapport est encore plus fusionnel, quoi. Tellement il s'est passé quelque chose dans la rencontre entre un spectateur et l'œuvre, une œuvre de quelqu'un en précis, de quelqu'un de précis. C'est, voilà, cette identification, qui vire à l'obsession, c'est formidable, je trouve, que certains cinéastes puissent avoir cette magie de changer des vies, parce que bon, donc mon rapport est toujours, comme si tu en aperçois, très fort, très, très intime.
En tout cas, Jean Touris, on vous remercie. On rappelle que votre ouvrage...
Merci à toi.
Merci beaucoup. Et on rappelle que l'ouvrage Les démons de William Friedkin est disponible chez Marest Éditeur.